Bien, nous reprenons notre séance plénière avec un compte-rendu qui va être fait par les rapporteurs des ateliers. On leur donne combien de temps, Michel, à ces rapporteurs ? Voilà, donc maximum 10 minutes. Donc compte-rendu de l'atelier et puis discussion générale. Et puis à 13h, eh bien, on vous laissera déjeuner. Il y a une annonce qui va être faite. Je vous passe le micro.
Bonjour, il y a parmi vous Monsieur Couette qui a cherché à me joindre ce matin. Donc voilà, je m'identifie et je suis prête à le rencontrer. Merci. Marie Musset.
Voilà, mais en plus si on peut favoriser des rencontres informelles au cours de ces journées de formation, c'est formidable. Messieurs et mesdames les rapporteurs, à vous.
Alors, je pense que c'est peut-être pas tout à fait la peine d'enregistrer. Je ne sais pas comment il s'appelait l'atelier. Parce que bon, et ça s'appelle échange informel. Bon, j'avais photocopié un certain nombre d'éléments. Bon, il y avait un titre autour des disciplines. Vous avez compris que pour moi, il était un peu difficile de préparer quelque chose autour des disciplines, mais les personnes qui étaient dans la salle ont été tout à fait parfaites. Bon, il y avait une forte composante collège, elle venait de disciplines diverses. Il y avait quand même beaucoup de scientifiques, d'EPS aussi, je pense à deux collègues aussi, et pas beaucoup de culture du primaire. Et bon, moi, je trouvais qu'il manquait hier, puis dans le temps qui est imparti, un temps pour les échanges. Et c'est vrai que j'ai été très laxiste, sans doute, en permettant ce matin qu'il y ait des échanges. Et je n'ai pas embrayé directement sur l'international, mais ça nous a permis aussi de découvrir une expérience que mène un collègue qui est à Nice sur les mathématiques et qui a finalement beaucoup avancé sur l'expérimentation et l'évaluation. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle socle commun, mais en tout cas, des élèves dans ce socle. Alors, bon, il y a eu dans l'atelier des interrogations qui ont porté sur des choses extrêmement variées, qui vont de les élèves et la calligraphie, et comment les élèves, finalement, sont face... Bon, dans le socle commun... On nous demande d'apprécier, j'ai pas les rubriques sous la main, on nous demande d'apprécier comment les élèves, on nous demande d'apprécier, alors comment c'est libellé? Écrire lisiblement. Comment va-t-on juger ça et comment va-t-on l'estimer? Y a-t-il des outils qui permettent de le faire? Et surtout, quel retour va-t-il y avoir vers les collègues? Comment les collègues vont-ils prendre ça en main pour être plus exigeants? Et j'étais très étonnée que ça suscite un débat très intéressant autour de ce problème que l'on avait déjà dans les évaluations CE2. Hein. Mais il y a derrière ça la notion d'erreur aussi. Si des élèves n'écrivent pas de manière lisible, il va y avoir des erreurs, il va y avoir tout un halo, tout un faisceau de choses qui vont être problématiques. Alors bon, on a finalement discuté autour de ces problèmes-là. Et puis, je ne sais pas comment nous sommes arrivés à un travail qui se fait à Nice sur les mathématiques depuis quelques années et qui a posé beaucoup de problèmes qui sont dans le socle hein, sur comment organiser les apprentissages, comment évaluer, est-ce qu'on évalue plusieurs fois, pas plusieurs fois, comment on module l'évaluation. À la fin de cet atelier, une collègue disait finalement, une des richesses du socle commun, c'est d'avoir le temps de faire les évaluations, c'est-à-dire que l'élève, à un moment, on voit qu'il n'a pas atteint, alors on ne dit plus la compétence, mais un peu quand même la compétence attendue, on va pouvoir l'évaluer à nouveau, c'est peut-être une richesse. Bon, ce que l'on a vu au travers du dispositif que vous avez présenté, c'est à quel point ça demande une organisation forte, à quel point il faut un maillage, à quel point il faut des réseaux pour que les choses soient possibles et que les évaluations ne se fassent pas de manière isolée dans la classe. Et moi, je terminais en disant, finalement, il faut beaucoup de médiation pour que les choses soient possibles. Et je crois que c'est un des enseignements que l'on a pu tirer de nos échanges. Bon, il y a eu de manière sous-jacente, hein, et ça dépasse le socle ou c'est dans le socle, des éléments sur les difficultés de caractérisation de l'hétérogénéité des élèves. Et ça, c'est revenu de manière massive, qu'il s'agisse du chef d'établissement, qu'il s'agisse d'enseignants de différentes matières, différentes disciplines, qu'il s'agisse de l'école élémentaire comme du collège. Je crois qu'on est toujours dans cette quête, alors faut-il dire d'outils, en tout cas d'éléments qui permettent de différencier les élèves, et puis après d'agir. Alors il y a eu aussi, on a eu aussi des choses qui sont apparues autour des difficultés alors comment passer de la notation à d'autres éléments de caractérisation des élèves. Bon, et puis après, bon, on n'a peut-être pas énormément parlé des retours pédagogiques, mais en tout cas, il y a de ça. On a été amené aussi à parler du travail en équipe, des possibilités de mariage de certaines matières. Hein. Comment faire pour travailler la notion de fonction que l'on va évaluer après en mathématiques, en sciences. C'était sur le collège. Enfin, en tout cas, c'est posé vraiment le problème des descripteurs de manière permanente. Bon, poser le problème des descripteurs, ça veut dire en amont aussi poser celui de quels outils va-t-on disposer. Et j'ai quand même entendu, et j'étais contente que ça ne soit pas moi qui le dise, hein, qu'il fallait aussi que les enseignants passent à l'observation individuelle des élèves et acceptent d'y passer du temps d'avoir un regard autre sur l'élève. Bon, on a aussi, il y a eu des retours plus ou moins marqués sur PISA au travers d'instruments, d'outils que vous avez mis en place pour les mathématiques. C'est-à-dire que on est à la fois dans du contrôle, on va dire, de connaissances à l'école, mais on est aussi dans quelle autonomie ont les élèves, quelle débrouillardise ont-ils face à des situations de la vie relativement courante dans des outils que vous avez montrés. Alors, voilà, hein, moi, bon, j'ai donné très vite à la fin les outils que j'avais apportés et qui avaient trait à la littératie, et voilà. Quelqu'un veut-il, est-ce que vous voulez compléter? Oui, il y a eu quelque chose aussi qui a été présent dans de nombreux discours, on va dire, c'est que l'élève, bon, ça va rejoindre Black et William, hein, l'auto-évaluation, mais aussi que l'élève comprenne ce qu'il apprend, comprenne ce que l'on attend de lui. On a aussi pas mal discuté autour de choses comme ça. Et puis, la modification des postures d'élèves, hein, on ne l'a pas dit comme ça, mais je vais le dire comme ça. On voit bien des élèves dont la posture se modifie parce qu'ils ont compris ce que l'on attend d'eux, ce qu'on attend d'eux, le type d'apprentissage qu'ils vont faire, la gestion des tâches qu'ils vont avoir parce qu'ils comprennent qu'il y a plusieurs tâches à faire, que ce n'est pas simplement. Qui ne vont pas découper du papier, mais qu'ils vont travailler sur les volumes. Enfin, on a passablement discuté autour d'éléments comme ça. Alors, ça, c'était peut-être pas tout à fait le socle, mais bon, c'était intéressant, de mon point de vue.
Bien, donc dans cet atelier, l'idée c'était l'auto-évaluation d'établissements scolaires à partir de l'exemple écossais. Alors, je le reformule selon ma compréhension. J'espère que je ne travestis pas l'intention de ceux qui ont conçu cet atelier. Il s'agissait bien de l'établissement scolaire, d'une entité facile à identifier, d'une communauté, là où se réalise un service d'éducation, évidemment, au bénéfice d'apprenants. Voilà. Alors, bon, cette idée de communauté est très, très marquée en Écosse, dans la mesure où il y a certainement une explication historique où l'anglais devait avoir il devait être mal perçu, et donc il fallait un petit peu se resserrer sur quelques bastions. Hein, c'est chacun sa forme de nationalisme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a disparu? Voilà. Donc inutile de rappeler le principe fort de décentralisation qui existe au Royaume-Uni. Malgré tout, qui s'est quand même traduit dans les années 90 par une reprise. Alors on a débattu autour de ça. Est-ce que c'était une reprise de reconcentration ou mouvement inverse? En fait, je crois qu'on est à peu près d'accord pour considérer qu'à un moment donné, le diagnostic était qu'il était de l'intérêt collectif que soient définis les objectifs, donc en particulier les curricula, au niveau du Royaume-Uni et non pas de chaque secteur territorial correspondant. Donc en fait, c'était pas, apparemment, ça n'a pas été vécu comme une dépossession d'une responsabilité, mais un niveau pertinent où ça devait être pris, ou, enfin, c'est un peu la subsidiarité à l'envers, c'est-à-dire que si on estime que le niveau pertinent pour reprendre une responsabilité est celle-là, ben, à ce moment-là, on lui confie. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai lu, j'espère que je dénature pas la compréhension du mini-groupe que nous constituons. Voilà, donc, c'est les fameux objectifs, les basic skills, d'une part, et puis beaucoup d'autres objectifs qui sortent de la représentation des savoirs scolaires que nous avons. Alors, c'est là aussi la difficulté, parce que, par exemple, se préoccuper du bien-être de l'élève, bon, bah, c'est pas forcément inscrit comme étant une préoccupation naturelle que nous ayons. Pour mémoire, j'ajoute, là, c'est une note du rapporteur, que PISA s'intéresse à des tas de choses, y compris le climat dans les classes. Hein. Parce qu'on focalise beaucoup, parce qu'évidemment, la presse fond là-dessus comme le vautour sur sa petite charogne, mais il y a bien d'autres choses qui sont explorées, qui font l'objet des rapports. Que ceux qui ne savent pas, je les invite vraiment à fouiller ces questions-là. Et on a parlé de notre classement. Alors là, quant à l'humiliation en milieu scolaire, je n'ose évoquer notre place. Elle doit être au niveau de la moquette. Et donc, nous avons là, non mais très très sérieusement, à repenser. Je suis complètement en dehors du truc là, mais ça fait écho un petit peu à ce qu'évoquait Martine. Nous avons certainement avec le socle une opportunité un peu historique de repenser un peu tout ça et faire en sorte que le vécu scolaire de l'apprenant soit effectivement dans une construction positive où il puisse respirer et advenir pleinement me paraît quand même effectivement un très très beau défi que nous avons à relever collectivement. Je reviens à notre préoccupation au niveau de l'atelier, où il apparaissait très clairement que l'idée d'une responsabilisation de l'ensemble des acteurs, donc le principe de l'accountability, était vraiment partagée par tout le monde et que la question, à la limite, ne se posait pas. Alors, Roger François, qui est là, parlait même d'une ferveur, d'un militantisme pédagogique, je ne sais quel terme ont été utilisés à un moment donné, où il y avait vraiment cette adhésion à l'idée d'un service qu'on apportait, qu'on cherchait à améliorer, etc. Alors, tout ça, il fallait absolument le canaliser cette énergie, et dans les années 98, c'est après être passé par des systèmes un petit peu d'évaluation plus proches de nos conceptions, a donc au principe d'auto-évaluation. Donc auto-évaluation, de se dire, l'entité se dote finalement d'une capacité de se regarder elle-même et de avec un certain matériel, un outillage. Alors, il est segmenté en 9 rubriques, si j'ai bien compris. Enfin, bon, il reste des documents de cette nature. Si certains sont intéressés, vous pourrez vous en emparer. Qui balaye évidemment des résultats, j'ai envie de dire, tels qu'on peut les concevoir, hein, par rapport aux performances clés, les obligations statutaires, etc. Mais évidemment, tout ce qui est lié, et c'est un gros paquet au niveau de la vie collective, au niveau de l'établissement, puisqu'il y a quand même tous les items de 2 à 8. Donc, vous voyez, un énorme paquet là-dessus. Et là aussi, un paquet qui est peu commun dans notre culture, autour du leadership, management, de l'entité, justement, qui se prend en charge. Alors on voit que derrière les mots, on a, indépendamment des problèmes de traduction qui avaient déjà été pointés hier, à savoir quand on passe d'une culture à l'autre, est-ce que derrière les mots on met exactement le même sens? Bon, ben, ça c'est un problème permanent. Derrière, on voit bien que on a besoin d'échanger. Par exemple, on a un petit peu débattu sur l'offre d'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'offre d'éducation? Alors spontanément, l'offre d'éducation, oui. L'offre, pour nous, ça parle, l'offre structurelle, le nombre de filières proposées, d'options, de choses comme ça, ça nous parle, c'est commun. Sauf que là, à l'évidence, quand on déplie ce qu'il y a derrière l'intitulé, et qu'on lit un peu plus finement, c'est l'offre de service. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la même lecture. Derrière le mot offre de formation, il y a bien là l'offre d'un service. Et à partir du moment où c'est l'offre d'un service, bah évidemment, ça veut dire que sont impliqués ceux qui bénéficient de ce service et tous les partenaires de l'école.
ou de l'entité d'une manière générale qui est étudiée. Et alors on voit bien qu'à ce moment-là, ben, des tas de personnes sont autorisées à donner leur avis sur la façon dont ça fonctionne, et c'est pas anodin de trouver ben, des items qui portent sur l'évaluation pour apprendre, les attentes et la promotion de la réussite, l'égalité et la justice, par exemple, le partenariat avec les élèves et les parents, toutes choses qui sont quand même intimement liées à cette idée d'une offre de service. L'accompagnement, le bien-être que j'évoquais tout à l'heure, bon, autant de points sur lesquels nous ne sommes pas aussi familiers. Alors pour aider les équipes, donc, ben, il y a tout un travail d'écrit, alors là, au niveau, je veux dire, du Royaume-Uni, si j'ai bien compris, enfin, j'espère que je n'ai pas fait, parce que notre ami Yvon est parti, donc il ne pourra pas apporter le regard de l'expert qui s'est penché sur ces questions. Donc ça a été finement décrit, sur une échelle de 6 niveaux, pour chacun de ces items, hein, donc 9 rubriques à l'intérieur de laquelle on trouve plus ou moins de subdivisions, et pour chacun de ces items, on trouve 6 niveaux avec une description un peu modélisée, inévitablement, de ce que ça traduit dans la réalité, telle que les acteurs eux-mêmes peuvent l'observer. Alors, nous imaginons, moi, c'est comme ça que je peux le rapporter. Nous imaginons que les acteurs, ben, à partir de ça, confrontent un petit peu la perception qu'ils ont de leur propre fonctionnement, de la réalité de ce qui se passe au sein de cette école, de cette structure, pour ben, se positionner par rapport à cette grille, ce qui doit probablement donner lieu à des débats internes. Non, je pense qu'on est meilleur que là. Non, tu n'y penses pas, regarde, par rapport à ça, on est... Enfin, Jean-Cromuel de Pine du Chef, là, ça doit donner de temps en temps à quelques tiraillements, j'imagine, internes.
Un commentaire, des débats contradictoires, et des débats contradictoires avec l'inspection.
Alors, je vais y arriver, parce que là-dessus, il y a eu un petit peu de confusion dans la lecture du processus global, et donc qui arrive à ce que l'équipe s'arrête par consensus sur un niveau qu'elle pense être le reflet de ce qu'elle fait effectivement sur chacun des items. Alors bien entendu, après, ben, ça nourrit son projet, ça dit redynamise les équipes, enfin ou du moins ça pousse encore plus loin leur volonté qui était déjà très très enthousiaste pour pouvoir ben, remonter d'un cran ou deux sur tel item qu'elle estime être ne pas être au niveau de performance souhaité. Alors comme tu viens d'indiquer, ceci est alors, c'est peut-être pas très très clair dans ma compréhension, confronté régulièrement à une évaluation, cette fois externe, qui est diligentée donc par les inspecteurs de Sa Majesté, et qui viennent en fait comparer entre le diagnostic qu'ils peuvent conduire eux par rapport à la situation observée, de ce que l'équipe elle-même a dégagé de par sa propre analyse. Alors, donc ce croisement des regards peut évidemment donner lieu à, d'une part, une appréciation différente, d'où débat contradictoire, ce qui permet de retravailler, d'affiner de nouveau la lecture que les uns et les autres faisaient de leur performance sur chacun des items, et donc certainement bah, de se réinterroger de manière à remettre un peu plus de charbon dans la dynamique qui était enclenchée. Voilà. Alors, en gros, ce que j'en ai retenu, alors, cette visite d'inspecteur déclenchée, je n'ai pas très, très bien compris, il semble que ce soit à partir d'indices, et notamment quand les résultats semblent quand même de façon récurrente en dessous de ce qui est souhaitable. À ce moment-là, bon, on sent bien que l'institution se donne... L'institution, plein de guillemets, hein, c'est pas du tout la même lecture que nous, hein, c'est le niveau supra, etc., déclenche effectivement cette visite. Et qui permet. Mais apparemment, c'est pas du tout vécu comme une logique de sanction. C'est vraiment une logique d'accompagnement. Et ça, je crois que ça a été très important de souligner que dans le principe même d'un notabili, et les inspecteurs sont eux-mêmes partie prenante du mouvement général. Donc, ils sont plus des accompagnateurs, des experts qui conduisent et préconisent certaines pistes, plutôt que des gens qui viennent en évaluation de sanction. Voilà. Alors, un petit zoom en se disant, mais si on se donne le mal de passer un peu de temps là-dessus, c'est que c'est éventuellement utile pour notre propre système. Donc, ils vont essayer de faire un petit travail de comparaison Alors, il a trouvé évidemment les indicateurs proposés, les indicateurs qui sont liés au programme défini par la LOLF, hein, 140 pour le premier degré, 141 pour le second degré. Alors déjà, on voit bien qu'il y a une césure qui fait que pour apprécier la dynamique du socle commun, depuis la grande section jusqu'à l'âge de 16 ans, on a une petite difficulté, puisque déjà, ça s'est référé à deux masses qui d'ailleurs sont structurées complètement différemment, donc il n'y a même pas de correspondance et de lien ou de pont facile à établir. Pour s'apercevoir que si sur les résultats, bon, allez, vaille que vaille, on est sur des choses qui sont encore avec pas mal d'imprécisions, et quand je dis imprécision, je suis assez gentil, parce que on voit bien que c'est un discours qui est suffisamment vague et flou pour que chacun, peut-être, puisse y mettre sa propre représentation en termes d'exigence. Mais enfin, il y a au moins des intitulés qui peuvent être à peu près mis en correspondance. Sur d'autres, il faut que je penche sur mes papiers... tout ce qui est du développement professionnel de l'équipe enseignante, qui est quelque chose qui est très très fortement inscrit dans la dynamique d'amélioration permanente et qui donne lieu justement à cette auto-évaluation en Écosse. Quand on regarde en France, c'est un peu à rire, quoi. On a quelques indicateurs purement statistiques, numériques, alors que l'intitulé, il doit être, si je ne dénature pas, il faudrait que je le reprenne, mais potentiel d'enseignement qualitativement adapté. Donc c'est bien le qualitativement adapté. Il y a les deux mots, c'est quand même pas neutre, hein, qualitativement et adapté. Et on regarde en fait des flux, savoir s'ils ont inspecté au moins tous les 5 ans, savoir s'ils ont été un peu en formation. Quand on connaît les imprécisions dans le codage de Gaïa, pour ceux qui suivent ça de près dans les missions de formation, des fois on met 29 parce que c'est 29. Hein, je vois que ça fait rire certains. Donc là, on voit qu'on est en grande difficulté. Grande difficulté pour trouver des correspondances, et ça montre finalement des vides, quelques béances, même j'ai envie de dire, dans notre système, pour bien prendre la mesure de ce qui est révélateur d'une mise en mouvement d'un collectif d'acteurs. Bon, c'est certainement moins triste sur certains aspects de la vie scolaire. Sur son prolongement en termes d'inclusion sociale, on est certainement plus éloigné, parce que notre culture, là encore, fait qu'on est dans un système cloisonné. L'école, c'est un monde fermé, hein, et le hors l'école, alors que là, par exemple, la jonction avec ce que font les travailleurs sociaux est très forte, avec les assistants sociaux. Sur la santé scolaire, c'est peut-être un des points, curieusement, où il y a des correspondances assez sympathiques. Alors, bien entendu, tout ce qui est autour du management, du leadership, là, il n'y a rien, puisque on voit bien notre conception de l'unité opérationnelle d'enseignement, l'établissement. Je ne sais pas quel terme utiliser entre une école, un collège. Donc pour moi, c'est des unités opérationnelles où il se produit un service d'éducation. Hein. Donc on est dans une vision tellement techno-mécaniste que c'est évidemment imaginé tout en haut, écrit, et donc on appuie sur le bouton et prrr, c'est comme les billes là, du joker, là, ça descend dans les goulottes, et quand ça arrive en bas, c'est forcément satisfaisant. Moi, j'ai toujours cette image de le grand chef appuie sur le bouton et toutes les billes qui dégringolent, et en bas, elles arrivent, ben forcément, c'est forcément. Il y a une bille dans chaque case, donc forcément, ça doit marcher. Forcément. Voilà. Donc, ça nous amenait sur une dernière réflexion, c'est cet écart quand même assez singulier dans la lecture des savoirs scolaires. Parce que finalement, tout ça, c'est quand même pour que chaque apprenant puisse tirer parti de d'une patte. Alors, s'il faut lui trouver un nom, on va l'appeler le savoir scolaire dans un premier temps, sans savoir quelque chose d'acquis dans le milieu scolaire, comment l'appeler autrement, je ne sais pas. Si vous avez une meilleure définition, on est prêt à l'apprendre. Et on voit bien que là, on est sur des écarts considérables. On n'est pas du tout... et on voit bien que le développement personnel, cette aptitude à réfléchir, à se prendre en charge, à être coacteur de l'accession à sa vie d'adulte, toutes ces choses-là, qui pointe clairement le bout du nez dans le socle. Ben, on est très très loin dans sa mise en œuvre et que les conditions périphériques qui entourent la mise en œuvre ben, ne sont pas forcément favorables. On l'a vu sur le management, on l'a vu sur un certain nombre d'items, on l'a vu sur la qualification du corps enseignant, mais vu complètement endogène, hein, pas du tout technocratique, hein, et loin des satisfaisants. Voilà, j'étais un peu long, excusez-moi, je vous livre tout à trac ce que j'ai noté.
Bien, ça va être donc mon rapport, si je peux dire, va être beaucoup plus succinct et avec beaucoup moins de profondeur réflexive que le précédent. Donc, on avait une séance qui était très structurée qui venait à la suite de ce regard international que nous avons eu hier après-midi. Donc on est parti d'une séquence vidéo touchant au Royaume-Uni autour du feedback et autour de l'évaluation formative et sommative. Voilà, où on voyait des enseignants, soit avec des élèves, soit entre eux, répondant aux questions de l'interview, expliquer ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Alors, d'abord, c'est très intéressant et je pense, enfin, personnellement, ce que je retiens de plus fort de ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est ce regard international qui est bien sûr une retombée des interrogations de PISA, mais pas simplement une retombée, une sorte de plongée, quelque chose de beaucoup plus profond pour essayer de voir ce que pourraient nous apporter des expériences étrangères qui vont aux racines même de nos pratiques. Donc, on s'est concentré sur deux premiers points sur lesquels je vais revenir, donc cette évaluation formative et sommative et leur rapport, le feedback, les interactions avec les élèves, c'est le deuxième point. Et puis, on s'est interrogé sur les obstacles que ces nouvelles pratiques risquaient de rencontrer ou rencontraient dans notre pratique quotidienne d'enseignant. J'évoquerai cela aussi. Il y a eu beaucoup d'interventions. On a travaillé de manière différente, soit en petits groupes, soit individuellement, soit en grands groupes. Enfin, c'était très, très structuré. Du coup, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties un peu dans tous les sens. Alors, pour essayer de rassembler sur le rapport entre l'évaluation formative et sommative, on s'est demandé comment faire pour que n'y ait pas que l'évaluation soit une incitation et pas un encadrement, une pression de chaque instant sur les élèves, et comment on peut passer de cette évaluation formative à la certification des compétences. Et là, on est très concrètement dans notre fameux socle commun. Et donc, on s'est demandé comment faire. Est-ce qu'il faut prendre le modèle du B2I, par exemple, comment est-ce que ça va se passer entre disciplines? Concrètement, est-ce que des équipes vont pouvoir se former? Qui décide, finalement, que telle ou telle compétence est acquise? Comment on la définit, ces compétences? Voilà. Donc, c'est tout ce passage de l'un à l'autre qu'on a mis en question, sans trouver, bien sûr, de solution magique, mais en se disant que, finalement, l'évaluation bouscule non seulement nos pratiques, mais même la manière dont nous sommes structurés entre disciplines, et que c'est ça qui est aussi intéressant. Alors, pour le feedback, on pourrait dire qu'on descend d'un étage, c'est-à-dire que là, on est vraiment au cœur du rapport entre l'élève et puis l'enseignant. Le feedback, c'est-à-dire le fait que il y a un retour de l'élève sur ses productions, sur ses erreurs, ça paraît quelque chose d'extrêmement productif. D'abord, pour l'enseignant, c'est une prise d'information. Ça lui permet de voir quels sont les obstacles dans l'acquisition des notions qu'il a à apprendre. Comment est-ce qu'il peut imaginer, ça peut lui permettre de préciser des stratégies pour justement contourner ou franchir ces obstacles. Donc c'est absolument indispensable. Pour l'élève, eh bien ça peut être un moyen où il prend conscience en fait, de ses difficultés, ne les rapportant pas à lui-même comme l'éternel fautif, mais en essayant de voir d'une manière plus technique, donc forcément plus distanciée, là où il en est et ce qu'il faudrait faire pour les franchir. Et de ce point de vue-là, on revient au premier temps, le feedback, c'est un élément indispensable de l'évaluation formative. En sachant que comme ce feedback, il est imprévisible, que ça dépend de tous les paramètres de la situation, eh bien ça contribue à donner la richesse, la variété de cette évaluation formative, mais en même temps de reposer encore avec plus de force le problème du lien entre cette évaluation formative et puis l'évaluation finale. Voilà, alors ça c'était les deux principaux points. Et puis les obstacles. Les obstacles, en fait, on en a parlé tout le temps. Pour la clarté du propos, j'essaie de partager un peu les choses, mais les obstacles, ils sont toujours revenus. Obstacles entre disciplines, bien sûr, enfin le rapport aux disciplines, qui s'accommode difficilement de l'introduction de ce type d'évaluation. D'autant plus que le paysage actuel, avec notamment les nouveaux programmes du primaire qui ont été évoqués, là, qui ne font où le lien avec le socle commun a l'air, assez éloigné, pour être gentil, repose ce type de questionnement. Obstacle, ça signifie aussi résistance de la part des individus ou des groupes d'individus ou des pratiques, résistance des enseignants, et plusieurs interventions sont allées dans le même sens, qui rappelaient le fait que cette question de l'évaluation est une question redondante depuis quelques années sur laquelle on peine à progresser, que le socle commun devrait être normalement une voie d'entrée ou pourrait l'être, je ne sais pas, mais que tout cela n'est pas nouveau et on voit réapparaître de manière, qu'on n'espère pas trop répétitive, hein, mais une sorte de relance de cette question fondamentale de l'évaluation. Les résistances, on s'est demandé si elles ne se trouvaient pas également dans la formation au sein des UFM, avec une formation tellement centrée sur le disciplinaire qu'elle ne laissait pas forcément la place suffisante à ces questionnements d'ordre généraux auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. On a évoqué également d'autres types de recherches dans le domaine de l'évaluation, sans minorer du tout le point central qui était l'apport de ces expériences étrangères. Il y a d'autres travaux, notamment ont été cités ceux de l'UFM d'Aix-Marseille. Tout ça pour conclure que l'évaluation est un enjeu d'autant plus fort, et là on retrouve à la fois les aspects positifs, attirants on pourrait dire, et puis les obstacles, parce que on voit que notamment dans l'évaluation formative c'est une véritable reconstruction des apprentissages qui est appelée par le renouvellement de l'évaluation, à moins qu'au contraire on imagine que les nouvelles modalités souhaitables d'évaluation apparaissent à partir d'autres types d'apprentissage. C'est-à-dire que, on peut faire le chemin dans les deux sens, mais de toute manière, l'évaluation n'est pas le couvercle que l'on pose sur la casserole. C'est quelque chose qui est dans la continuité. Et puis, juste en conclusion, quelque chose qui était très précieux dans cette vidéo britannique, c'était l'importance donnée à des fondamentaux d'ordre généraux, d'ordre éthique dans le rapport enseignant-élève pour ce qui est de l'évaluation. Il a été rappelé cette importance fondamentale de l'estime de soi, donc il y a été fait allusion tout à l'heure, mais à l'inverse, en parlant d'humiliation, du fait qu'à partir du moment où l'apprentissage devient un problème technique à multiples étapes et pas un jugement de valeur qui descend du ciel, eh bien on peut dire que de ce point de vue-là, l'évaluation, ça change tout.